Bienvenue à Extravagance. Le message que vous allez écouter vous est présenté par le pasteur Bruno Picard. Nous vous souhaitons à toutes et à tous une excellente écoute.
Regarde ton voisin et dis-lui, où sont les limites ? Dis-lui, où sont les limites ? Et le message ce soir est une introduction à une série que je prépare pour vous et pour moi, qui va commencer dès le week-end prochain par la grâce de Dieu, parce que je veux, avec votre aide, terrasser l'esprit qui attaque en ce moment non seulement l'Église de Christ en général, mais particulièrement l'Église en France. Il y a un esprit qui étouffe trop de chrétiens. Il y a un esprit qui nous fait suffoquer. Vous savez, la parole de Dieu est comme l'air qu'on respire. Jésus a dit, la parole est esprit et vie. Quand tu lis la parole, tu inspires le souffle de vie. Et quand tu pries, tu expires le souffle de vie. Tu redonnes sa vie. Lorsque le diable réussit à étouffer l'Église, il y a deux choses qui se passent. L'Église arrête de prier et l'Église arrête de lire sa Bible. Et quand il y a ce genre de choses dans le monde francophone, l'homme de Dieu que je suis, le prophète que je suis, doit déclarer haut et fort que nous ne laisserons pas cet esprit démoniaque attaquer l'Église de France. Nous ne laisserons pas cet esprit démoniaque dire aux chrétiens « Fais comme tu peux, attends le retour de Jésus, c'est faux. » Il y a une armée qui se lève en ce moment même et nous en faisons partie. Regarde ton voisin et dis-lui « Comment rester en feu pour Jésus ?» Alors ne manquez pas les week-ends qui vont suivre. Et je ne sais pas si je prêcherai le vendredi ou le samedi ou le dimanche. Aucune idée pour l'instant. Je sais simplement que la nouvelle saison, je vais m'attaquer à l'esprit de Python. Je ne sais pas encore quel sera le titre de ma série, mais je vais m'attaquer avec vous. Vous et moi ensemble, on va s'attaquer à l'esprit de Python. L'esprit de Python est un esprit qui vient étouffer les chrétiens, qui nous empêche de prier, qui nous empêche de louer, qui nous empêche d'adorer, qui nous empêche de célébrer le roi. On a l'impression d'être étouffé, d'être emprisonné, alors que nous devrions être les hommes et les femmes les plus libres de la terre. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. Le Saint-Esprit l'a démasqué. Charge à nous maintenant de le déloger. Quand le Saint-Esprit démasque un ennemi, cela est une invitation radicale à ce que l'Église déloge cet ennemi. Je vais lire ce soir avec vous une histoire extrêmement connue de la parole de Dieu dans Daniel, chapitre 3. Et j'ai souvent entendu cette histoire-là plusieurs fois et vous aussi. Donc j'espère que les anciens n'ont pas m'en vouloir, mais vont rentrer de plein fouet dans cette histoire puissante. Et que vous, les nouveaux chrétiens, vous allez aussi vous dire, je veux vraiment entendre ce que Dieu a à me dire. Je veux aussi célébrer ce soir et accueillir les 157 nouveaux membres à Extravagance. Bienvenue, bienvenue. 157 et le chiffre continue de grimper. Et comme vous venez le vendredi ou le samedi ou le dimanche et que pas tout le monde vient tous les week-ends, il est difficile de voir que l'Église grandit vraiment. Bref, c'est pas possible ce français-là. Si nous avions une salle plus grande, nous eussions pu avoir été capables de voir tout le monde ensemble et ce sera pour nous un but à atteindre. Ce soir, j'aimerais te défier. J'aimerais que tu puisses ce soir avec moi comprendre la saison dans laquelle tu vis. Et tu vas ce soir quitter ce lieu en te disant, je suis un plus que vainqueur, je refuse de baisser les bras. Le Saint-Esprit a déjà beaucoup parlé dans l'adoration louange, il a beaucoup conduit les moments et tout ce qu'on a vécu ce soir quasiment était spontané, rien n'était préparé. Lorsque Emily me voit monter sur l'estrade, en général, elle se dit, mince, il n'y a plus de liste. Et ce qu'il faut qu'on fasse, c'est que nous apprenions à ne pas être prédictables. Et, vous savez, qui a déjà vu les cortèges du pape ou d'un homme politique connu comme un président? Est-ce que vous savez que personne ne sait par où passera le président avec ses gardes du corps? Oui ou non? Par sécurité, ce trajet est secret. Le diable aime les chrétiens qui font toujours la même chose de la même façon parce qu'il peut vous tendre un piège toujours à la même façon, au même moment, au même endroit. Mais quand tu n'es pas quand tu ne peux pas prédire, quand tu n'es pas prévisible, quand tu deviens imprévisible, le diable perd tous ses moyens, il s'arrache les cheveux, il se mord les gencives parce qu'il n'a plus de dents. Il se dit, qu'est-ce que je vais faire parce que tu es imprévisible? Il est temps pour vous et moi de respirer l'air de l'imprévisibilité. C'est l'histoire d'un roi, Nabucodonosor. Et ce roi-là est totalement fou. Et il décide d'ériger pour sa gloire une statue que vous connaissez très bien, une grande statue. Et il veut que tout le monde l'adore. Il veut que tout le monde se prosterne au son du groupe de louanges de l'époque. Il y avait un groupe de louanges à Babylone et tous les instruments se mettent à jouer. Et il veut qu'au son des trompettes, au son des guitares, de la batterie, ce que vous voulez, tout le monde se prosterne devant le roi Neb. Je l'appelais Neb. Et Neb symbolise en ce moment ce genre d'esprit qui veut attaquer l'Église. Vous savez qu'il y a trois ennemis majeurs pour l'Église. Il y a la chair, il y a le monde et il y a le diable. Quand je parle du monde, je ne parle pas des gens, je parle de l'esprit du monde. Il y a ces tendances de la chair à ne pas vouloir faire ce que Dieu veut que nous fassions. Il y a cette attaque de l'ennemi pour nous empêcher à faire ce que Dieu veut que nous fassions. Et il y a cette pression de l'esprit du monde, de la culture du monde, pour nous empêcher de faire ce que Dieu veut que nous fassions. Et de la même façon, en ce moment, où Neb, le roi Neb, ordonne à tout le monde de se prosterner devant lui, de la même façon, en ce moment, le diable, la chair et le monde se sont unis ensemble pour vous obliger à vous prosterner devant eux. Mais ils sont mal tombés. Ils sont tombés sur un groupe d'hommes et de femmes qui sont radicalement amoureux de Jésus-Christ de Nazareth. Et je parle de vous ce soir. Et ce message est extrêmement important et rempli de conséquences extrêmement importantes. Nos enfants nous regardent vivre. Et nos enfants ont besoin de modèles, d'hommes et de femmes qui se tiennent droit, la tête haute, avec cette fierté spirituelle qui dit « J'appartiens au roi des rois. Et je ne fléchirai pas le genou devant ni la chair, ni le monde, ni le diable. Et je resterai fort jusqu'à la fin. » Et nous devons faire face à ces réalités. Combien d'entre vous vous êtes rendu compte, j'espère que vous l'avez fait ce soir, que la vie chrétienne est tout sauf facile. Elle est en fait très simple, et nous la compliquons, mais elle est très difficile à vivre. Combien d'entre vous vous êtes rendu compte de cette vérité? Tant que tu n'es pas chrétien, tout le monde te comprend. Et quand tu deviens chrétien, tout le monde pense que tu es fou. Imiter Lady Gaga, ils vont te trouver fun. Mais imiter Jésus-Christ, ils vont te prendre pour un fanatique. Coucher à droite et à gauche, ils vont te trouver fun. Mais déclarer haut et fort que tu ne veux pas coucher avant le mariage et tu garderas une seule et unique femme toute ta vie, tu dis au revoir au harem. Et ils vont croire que tu es fou. Et tu vas au cinéma et tu regardes un film et tout d'un coup il y a une femme qui passe, elle a trop chaud pour être habillée et tu baisses les regards et tu ne regardes pas et les gars qui sont toi te regardent, disent, il est fou ce gars-là, c'est la plus belle image du film. Et tu refuses de souiller ton âme et ils te prennent pour un fou. Et tu refuses de souiller ton âme avec le non-pardon et te prennent pour un fou. Mais je déclare ce soir que tu ne dois pas te soumettre et obéir à la pression de Neb. Neb, c'est ce roi qui symbolise ce soir la pression de la chair, la pression de l'esprit du monde et la pression de Satan. Romains 12, 2 nous dit « Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. » Il y a un monde réel. 1 Pierre 5,8 nous dit « Ne vous laissez pas distraire. Soyez vigilants, votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant, cherchant quelqu'un à dévorer. » Refuse d'être la proie de l'ennemi. Regarde ton voisin et ton frère, dis-lui, tu n'as pas besoin de t'offrir en sacrifice à Satan. Non. Galates 5, 16, 17 nous dit, notez s'il vous plaît, c'est des versets extrêmement importants ce soir. Je vous dis donc ceci, laissez le Saint-Esprit diriger votre vie. Laissez le Saint-Esprit diriger votre vie. Et vous n'obéirez pas au désir qui anime l'homme livré à lui-même. Plus les gens m'appellent en disant « Pasteur, je t'en supplie, aide-moi. » Je dis « Pourquoi ? » J'ai du mal à ne pas coucher avec ma petite copine. Je dis « Ben, je ne peux rien pour toi, sauf si tu lui demandes au Saint-Esprit de venir prendre le contrôle de ta vie. Si tu obéis au Saint-Esprit, tu ne coucheras pas avec ta petite copine. » Simple, cœur d'âme terminé. Suivant. Car ces désirs sont diamétralement opposés à ceux de l'esprit. Et l'esprit a des désirs qui sont opposés à ceux de l'homme livré à lui-même. Les deux sont opposés l'un à l'autre, c'est pourquoi vous ne pouvez pas être votre propre maître. Ou bien j'appartiens à Jésus, ou bien je n'appartiens pas à Jésus. Si j'appartiens à Jésus, je prends position et je refuse de me soumettre à Neb. Alors où sont les limites? En priant cette semaine, j'ai vraiment passé beaucoup de temps devant la naissance de mon fils à vérifier si mon cœur de père était à la bonne place. Je veux vraiment que mon fils soit un homme selon le cœur de Dieu. Je veux que mes filles sachent discerner ce qu'est un homme selon le cœur de Dieu. Mais pour que mes filles puissent savoir ce qu'est un homme selon le cœur de Dieu, il faut bien qu'elles aient un modèle. Il faut qu'il y ait autour de nous des modèles, des hommes et des femmes qui refuseront de fléchir le genou devant Neb. Les chrétiens aujourd'hui m'inquiètent souvent, et je ne parle pas seulement pour nous, mais pour le monde entier, on ne sait plus toujours où sont les limites. Ce qui est mal, ce qui est bien, cessons de tout essayer de transformer ici. Ce qui est mal, ce qui est bien, suivre Jésus, c'est payer un prix. Le salut est totalement gratuit, mais être un disciple, ça coûte. Si les jeunes couchent, toi, tu découches. Tu arrêtes ça. Si les hommes se masturbent, toi, tu ne te masturbes plus. Tu pries, tu loues Dieu, tu prends du bromure. Tu te gardes pur. Tu ne franchis pas les limites. Alors ce soir, relax, hein, il n'y aura pas de condamnation, il y aura juste de la conviction. Parce que Dieu cherche un homme ou une femme qui se tient droit en disant « Je refuse de fléchir le genou devant Neb. » Aurais-je ce soir dans ce lieu des hommes et des femmes, cette trempe-là? Bientôt, je vois des chrétiens qui capitulent, qui vivent comme avant. Cette semaine, je priais et Dieu me disait « Mais si tu ne peux pas voir la différence entre mon peuple et ceux qui ne sont pas à moi, comment vais-je toucher ce monde ? Si la lumière est comme les ténèbres, alors comment pourrons-nous toucher le monde ? Il arrive un moment dans notre vie chrétienne où il faut prendre une décision radicale en disant « Je ne serai pas comme les gens du monde. Je vais les aimer, je vais les soutenir, je vais les encourager, mais je n'ai pas besoin de pécher pour gagner les pécheurs. » Certains pensent que c'est une façon de gagner des âmes. Je vais boire avec eux pour pouvoir gagner des buveurs. Mais tu rigoles ou quoi? Matthieu 16, écoutez comment Jésus-Christ parle ce soir. Matthieu 16, 21-26. Ensuite, Jésus fit comprendre à ses disciples qu'il était désormais nécessaire pour lui d'aller à Jérusalem, se soumettre à une éprouvante souffrance entre les mains des chefs religieux, d'être tué et d'être ressuscité le troisième jour. Matthieu 16, verset 22 nous dit « Et Pierre le prit à part, protestant, impossible maître, cela n'arrivera jamais. » Mais Jésus ne démordit pas. « Pierre, sors de mon chemin, Satan, dégage. » Les amis, le jour où Jésus te parle en disant « Mika, sors de mon chemin » et rajoute « Satan, dégage, tu peux pleurer. » Et il dit « Tu n'as aucune idée de la manière de travailler de Dieu. » La façon dont Dieu fonctionne. Dès l'instant où je ne sais plus comment Dieu travaille, je peux devenir l'ennemi de ce que Dieu fait. De l'instant où je ne suis pas capable de discerner ce que Dieu fait, comment il le fait, je peux m'opposer à lui sans même le savoir. Je deviens un ennemi du plan de Dieu sur terre. C'est pour cela que trop de chrétiens n'arrivent pas à vivre une vie de victoire. Il y a trop de compromis. On fait trop de choses comme le monde. Et ce soir, mon cœur de papa, de berger, de pasteur, d'ami, de frère chrétien, de ce que vous voulez, vous crie au secours en disant « Allons être une église qui fait la différence partout où nous sommes. » Pas de blablabla, pas de cantiques religieux, pas de petites paroles à l'eau de rose. Nous voulons être un peuple puissant qui secoue le monde, qui secoue la nation, qui secoue la France, qui secoue la Réunion. Comment expliquer ce soir que la plupart des hommes politiques qui ont été élus cette année maires dans les villes de la Réunion sont tous ou presque allés voir des médiums, des voyants, des sorciers, des marabouts? Et ce soir, je vous déclare, je prophétise, le lendemain des élections, j'ai écrit sur un mur Facebook, j'ai écrit que les résultats de ce jour-là n'étaient pas définitifs, il y aura beaucoup de changements. Vérifiez les informations. Les maires qui ont été élus vont sortir les uns après les autres. Ceux qui ne sont pas de Dieu ne resteront pas. Écoutez bien cela, mes amis. Dieu dit assez. Je prends position. Dieu dit je prends position. Regardez les informations. Repensez à 2 ans en arrière. Les têtes d'affiches vont changer. Les ceux et celles qui pensaient être les tops, des tops, des tops, des numéro 1 en France ne seront plus jamais numéro 1. Parce qu'ils ont bafoué Christ. Et je ne parle pas là de vengeance politique. Je ne suis ni de droite ni de gauche. Je suis d'en haut. Mon rôle de prophète est de prendre un risque comme ce soir, de déclarer ce que Dieu veut faire. Dieu ne veut pas d'hommes et de femmes qui bafouent la morale dans une nation où son peuple prie. Alors Jésus s'efforça de convaincre ses disciples. Quiconque a l'intention de venir avec moi doit me laisser conduire. Ce n'est pas vous qui êtes sur le siège du chauffeur, c'est moi. Regarde tout un indice, si Dieu est ton copilote, tu t'es trompé de siège. Ne fuyez pas la souffrance. Moi j'aime beaucoup Jésus. Jésus est clair, clean, tranquille. Ne fuyez pas la souffrance. Accueillez-la à bras ouverts. Ouais, c'est une église. Suivez-moi et je vous montrerai comment faire. Il ne dit pas suivez-moi, je vous ferai éviter la souffrance. Il dit suivez-moi et je vous montrerai comment accueillir la souffrance à bras grands ouverts. S'aider soi-même ne vous aide aucun secours. Mais Jésus est cash. Le sacrifice de soi est le chemin, mon chemin, pour se trouver et trouver sa véritable identité. À quoi cela sert-il d'avoir tout ce que l'on veut, mais de se perdre? Que donneriez-vous en échange de votre âme? En substance, Jésus dit, tu sais, je veux que tu marches à ma façon. Je veux que tu marches avec moi. Je veux que tu sois quelqu'un comme Shadrach, Meshach et Abednego, capable de se lever haut et fort en disant « Je ne fléchis pas le genou devant toi, Neb. » Mais où sont les limites ce soir? Où est-ce que tu traces les limites? Où est-ce que tu sais si tu dois absolument rester sur ta position ou ne pas changer? Vous savez, je lisais cette histoire dans Exode où Dieu rencontre Moïse sur le mont Sinaï. Écoutez bien ça, ça m'a choqué. Et Dieu parle à Moïse et tout d'un coup, Dieu dit à Moïse, redescends en bas et toi Moïse, tu fixes les limites de mon camp. Il n'a pas dit je fixerai, il a dit toi Moïse, tu fixes les limites de mon camp. Ça veut dire que vous et moi ce soir, nous les parents, nous les leaders, les chrétiens, nous sommes censés fixer les limites. Et dans ce camp-là, il y a là où Dieu agit, et en dehors du camp, Dieu n'agit pas. En d'autres termes, vous et moi ce soir, nous sommes censés connaître quelles sont les limites. Est-ce qu'on peut tout faire? Non. Est-ce qu'on peut faire des choses qui vont faire grandir la gloire de Dieu? Oui. Est-ce qu'on peut activer sa présence à notre niveau? Oui. Est-ce qu'on peut limiter la présence de Dieu? Oui. Est-ce qu'on peut perdre notre salut? Mon ami, c'est un grand débat. Moi, je pense que oui. Je pense que si on néglige notre salut, si on le maltraite, si on le méprise, et si un jour on dit « je veux pas de Christ, je le renie à fond et je renie son esprit », on peut perdre. Dieu est tellement patient que ça arrive très rarement. Mais l'auteur, l'Épître aux Hébreux, nous dit « fais attention à ton style de vie, ne néglige pas ton salut ». Paul nous dit en Philippiens, travaille à ton salut avec crainte et tremblement. Tous les jours que Dieu fait en ce moment, je me réveille. Parfois j'ai envie de pleurer en me disant, mais dans quelle nation est-ce que mes enfants grandissent? Est-ce que vous, ça ne vous révolte pas? J'entends les choses qui se passent dans les écoles, je me dis, mais ça me révolte, mais qu'est-ce que l'on fait? Je ne suis pas le genre de gars à parler pendant des heures. Je veux agir et agir vite et agir bien et agir avec efficacité. Je veux secouer le monde et ma génération. Je veux que mes enfants, il y a 3 jours de ça, Anna priait, Anna disait pas, Seigneur Jésus, donne-moi un mari comme mon papa. Yes. Je veux qu'elle garde ça. Ce n'est pas fini, mes amis. Vous n'êtes pas fini. Vous n'êtes pas terminé. Vous ne pouvez pas baisser les bras. Vous devez fixer les limites dans votre vie et dire « Je veux tenir ferme et je ne fléchirai pas mon genou devant Neb. » Je n'ai pas le temps de tout dire, malheureusement, mais Shadrach, Meshach et Abednego sont des hommes et des femmes. Enfin, sont des hommes, trois jeunes juifs extrêmement puissants qui nous donnent une grande leçon ce soir. J'aimerais essayer de finir en quelques minutes, mais c'est pas facile de tout dire ce soir, mais écoutez bien ce qu'il y a dans mon esprit. Qui ce soir décide d'être en feu pour Jésus? Qui décide de placer des limites en disant « ça je ferai pas, ça je peux faire, ça je ne ferai plus, ça je veux faire, ça je ne ferai plus » afin que nos enfants et nos amis voient quelles sont les limites? Vous savez, j'aime courir, pour ceux qui ne le savent pas, vous le savez. Et quand mon coach, qui est aussi mon ami proche, m'appelle pour courir, il y a 2 choses qui se passent dans mon cœur. Il y a une excitation du style « yes ». Il y a cette peur, cette trouille au ventre, parce que je sais que je vais souffrir. Et je peux continuer à m'entraîner seul et je ne verrai aucune différence. Ou choisir quelqu'un qui est largement meilleur que moi, qui prend un plaisir à te faire souffrir pour que tu vois une différence. Le Saint-Esprit est exactement comme ça. Il vient te prendre, il va te coacher et parfois, tu auras peut-être un peu de souffrance afin d'être différent, meilleur, plus efficace, plus précis. Si tu fuis les souffrances que Dieu te donne, ça paraît bizarre, hein? Et si tu fuis les souffrances que Dieu te donne, tu fuis la responsabilité que Dieu a pour toi. Le Père a dit, j'emmène mon fils à la croix. Dans l'évangile de Luc, la parole de Dieu dit que le Saint-Esprit, tout le monde dit le Saint-Esprit ? Le Saint-Esprit a conduit Jésus dans le désert pour être tenté, tout le monde dit tenté, par le diable. Le Saint-Esprit, pas la chance, pas le diable, le Saint-Esprit a pris la main de Jésus, l'a amené gentiment dans le désert pour être tenté par le diable. Et quand il sort de ce test, la parole déclare, l'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a oint pour, bam, puissance, autorité, je suis responsable, j'ai passé le test de mon Père. Nous les chrétiens, ce que nous voulons faire, nous voulons éviter les choses, les problèmes. Nous pensons que la vie chrétienne, c'est une vie de confort. Tu rigoles ou quoi? La vie chrétienne est une vie de puissance, une vie de victoire, une vie de zèle, de passion, une vie parfois de souffrance, une vie de test, une vie de difficulté parfois, une vie de victoire magnifique, mais une vie aussi de souffrance. J'ai demandé à Dieu cette semaine pourquoi fallait-il que nous les chrétiens nous passions par autant de souffrances? Et Dieu me dit, pour que je prouve que vous êtes différents. Comment faire la différence si nous ne sommes pas nous-mêmes exposés aux mêmes problèmes que nos concitoyens? Face aux impôts, par exemple, avons-nous la même réaction que nos concitoyens? Oui, prends tout, Seigneur. Cette année, j'ai écrit un... Je suis heureux parce que cette année, je ne paye pas d'impôts cette année. En fait, les impôts me doivent de l'argent. Cette année. Là où tout le monde se plaint, moi, ils m'ont écrit, quand je fais mon truc là, ils m'ont dit, nous vous devons, petit calcul en cours, 1 euro. Ils vont me rembourser 1 euro. Je vais leur dire, gardez la monnaie. Mais j'ai quand même pris pour deux bouchons. Mais malgré tout, je dis, Seigneur, être différent. Lisons ensemble rapidement Daniel 3, versets 1 à 7. J'ai déjà expliqué, Nebuchadnezzar, Neb, est dangereux et lui, ce qu'il veut, c'est tout faire pour que ces hommes-là adorent sa statue et ils refusent. Et j'ai commencé à réfléchir un peu à comment ça pouvait nous parler, nous, ce soir. Et je ne sais pas si ça va vous parler, mais moi, ça m'a parlé. Et j'imagine ces trois juifs-là, Shadrach, Meshach et Abednego, et non pas Abednego. Ces trois-là font face à un problème majeur. Ou ils se prosternent devant Neb, ou ils meurent. Simple. Ils ont ces différents tests. Ils ont ce premier test qui dit que je vais préserver mes acquis sociaux. Vous savez, ces trois jeunes hommes sont réellement à un niveau élevé de la société. Et pour se dire, tu sais, Seigneur, je veux bien me prosterner. Seigneur, vois ce qu'on va faire. Je vais me prosterner, mais dans mon cœur, je vais rester debout. Seigneur, tu sais, je vais faire comme tout le monde, mais dans mon cœur, tu connais, Seigneur, tu vois mon cœur. Le nombre de gens qui me disent, Dieu voit mon cœur. Non, attends, tu es en train de me dire que tu couches avec ton petit copain et que Dieu voit ton cœur. Mais oui, c'est dur. Toi, t'es marié, mais moi, non, mais c'est dur. Non, mais Dieu voit ton cœur, il voit ton corps, il voit ta chambre, il voit tout. Dieu n'aime pas ça. Il t'aime, toi, mais il n'aime pas du tout ça. Heureusement que je ne suis pas Dieu. On serait tous morts, moi le premier. Mais Dieu dit ici dans sa parole, il dit, hé, ne fais pas semblant de te soumettre. Vous auriez pu dire, je vais me soumettre comme ça devant Neb pour ne pas avoir de problème et je vais garder ma position. Non. Ce soir, Église, est-ce que nous sommes de ceux qui voulons garder notre statut social, nos amis, nos collègues de travail? Et comme on veut les garder, on ne va surtout pas montrer que nous sommes pour Dieu. Non, tu comprends, c'est pas facile. Non, je comprends, oui, c'est vrai. D'autres veulent faire, vous savez, j'imagine ces trois jeunes-là qui veulent peut-être éviter la persécution. Combien de chrétiens me parlent souvent de cela? J'aime pas la persécution. Mais qui c'est qui aime la persécution? Je n'ai jamais vu un chant qui disait « Oh, persécute-moi !» Jamais. Personne ne se lève le matin en disant « Seigneur Jésus, envoie la persécution !» Je suis prêt. Personne ne prie comme ça. Tous les chrétiens prient, Seigneur, évite les persécutions. Seigneur, cache-moi. Il y a des moments où Dieu va nous protéger, c'est sûr. Il y a des moments où Dieu va nous exposer pour montrer que nous sommes différents. Il y a 2 semaines de cela, mon épouse Élodie est sur le point de mourir. Mon petit garçon est sur le point de mourir. Et les médecins décident de faire une césarienne en urgence. Elodie a une hémorragie, elle a perdu plus de 1,3 litre de sang. Et tout est dangereux du coup. On me fait sortir rapidement, je sors de la salle, il faut l'opérer en urgence. Et vous croyez que j'ai le temps de dire pourquoi? Seigneur, je te sers, je comprends pas, ma dîme, mon offrande. Mais je m'en fiche. J'ai pas le temps de demander pourquoi. Je le célèbre. Je l'honore. Je le glorifie. Merci pour le médecin qui est là. Merci pour l'équipe qui est là. Merci pour tes promesses. Quoi qu'il arrive, Seigneur, je fixe mes regards sur toi. Et en aucun cas, aucun membre de l'équipe médicale n'a vu ma crainte ou mes doutes ou mes peurs. Je ne me suis pas rebellé contre Dieu. J'ai embrassé sa sagesse. Seigneur, je te fais confiance. Et en faisant ça, tu deviens différent des autres. Vous savez, on aurait pu se dire, il vaut mieux être un homme faible qu'un homme mort. Shadrach, Meshach et Abednego auraient pu dire, je préfère être un homme faible qu'un homme mort. Après tout, je suis plus utile à Dieu vivant. Non, écoute bien ça. Être mort ou vivre dans le compromis, c'est la même chose. T'es inutilisable. Ou bien on est vivant à fond pour Jésus, ou bien on ne peut pas être utilisé à fond par Jésus. Renard Bonnquet, on vient le voir, on lui dit, Monsieur Renard Bonnquet, vous connaissez Renard Bonnquet? Qui connaît Renard Bonnquet? Qui ne connaît pas Renard Bonnquet? Google, Bonnquet, un homme de Dieu extraordinaire. Écoutez bien cela. On vient le voir, on lui dit, Monsieur Renard Bonnquet, vous avez 40 ans de ministère, quels sont vos conseils pour être utilisé par Dieu? Et il dit, si vous voulez faire du café chaud, vous avez devant vous des plaques chauffantes. Une est allumée, l'autre est éteinte. Quelle plaque allez-vous choisir pour faire chauffer le café? Il lui dit, la chaude. C'est pareil pour Dieu. Il se servira des hommes et des femmes en feu, bouillant, et pas froid. Ces hommes-là se disent ce soir, je n'ai pas envie de me prosterner, mais je préfère vivre pour Jésus que de vivre contre Jésus. Je préfère être vivant en Christ qu'être mort dans le péché. Je préfère ne pas fléchir le genou devant tout ce qui se passe de mal autour de moi. Je veux marquer ma génération en étant différent. Tout le monde dit être différent. Oui, Dieu voit nos cœurs, mais Dieu regarde celui ou celle qui se tient debout pour marquer sa position. Ce soir, l'église, je sais que c'est un peu différent, je sais que c'est un petit peu, peut-être un peu... Certains se disent, aïe, aïe, ça tape ce soir. Non, c'est très cool. Je vous garantis, c'est très cool. Il vaut mieux se faire reprendre tous ensemble par l'amour de Dieu que se faire éclater par la haine du diable. Qui ce soir veut prendre position pour Jésus? Exact. Un disciple est différent. Matthieu 5, 13 nous dit, laissez-moi vous dire pourquoi vous êtes là. Vous êtes là pour être le sel qui donne de la saveur, qui fait ressortir les saveurs de Dieu de cette terre. Si vous perdez votre salinité, comment les gens goûteront-ils à la sainteté? Eish. Vous aurez perdu votre utilité et vous finirez à la poubelle. C'est Jésus qui parle, c'est pas moi. Il dit, si ton sel perd sa saveur, tu n'es plus utile, tu finis à la poubelle, tu iras sûrement au ciel, mais ici-bas, tu n'as aucun impact. Et moi, je cherche ce soir, en ce moment, des hommes et des femmes qui me disent, je veux que moi et ma maison, nous servons l'Éternel. Je ne veux pas que ce soit les jeux vidéo qui éduquent mes enfants, je ne veux pas que ce soit Violetta qui éduque mes filles. Je ne veux pas que ce soit Disney Channel qui parle à la vie de mes filles. Je veux que ce soit le Saint-Esprit qui parle à la vie de mes enfants. Je veux que la parole, tu vois, exactement, soit vivante dans ma vie. Je veux refléter Christ. Voici une façon de présenter les choses. Matthieu 5, 13 et 16 nous dit, voici, vous êtes ici pour être la lumière, pour faire ressurgir, pour mettre en valeur les couleurs de Dieu dans le monde. Dieu n'est pas un secret qui doit être gardé. Nous allons faire connaître cela au monde, tout comme une ville est visible et accessible au sommet d'une colline. Si je fais de vous des flambeaux, des porteurs de lumière, vous ne pensez tout de même pas que je vais vous cacher sous un seau, n'est-ce pas? Je vous mets sous un trépied. Maintenant que je vous ai mis au sommet de la colline, sur un trépied, brillez. Gardez vos maisons ouvertes. Soyez généreux avec vos vies. En vous ouvrant aux autres, vous allez inciter les gens à s'ouvrir à Dieu, ce Père céleste généreux. Ce soir, premièrement, ces hommes-là nous montrent qu'il faut être différent. Non, mes enfants n'iront pas à des booms. Si je ne sais pas qui est là-bas, qu'est-ce qu'ils vont faire, pourquoi ils vont le faire, non. On m'a dit, ouais, mais tu es religieux, tu es sectaire. Non, je ne suis pas sectaire. Mais moi, je ne sais pas si je suis capable de tenir dans un tel environnement. Est-ce que mes filles auront la puissance spirituelle pour tenir? Le gars qui posera sa main sur le genou de ma fille a intérêt d'être vraiment sûr de son coup. Vraiment. Est-ce que c'est religieux? Non! C'est le cœur de Dieu. Nos filles ont besoin d'être préservées. Leur virginité ont besoin d'être célébrées. Et pour celles qu'on a déjà perdues, on va prier pour toi. Arrête ce que tu fais et vis pour ton roi. Ouais, mais tu comprends, toi, comment ça? J'ai aussi 18 ans. J'ai aussi chauffé. Mais j'aimais Christ. Et j'aimais ma femme plus que moi-même. Et ce soir, je vous en supplie, Église. Arrête de faire tout ce que le monde fait. Fais ce que Dieu veut que tu fasses et tu auras sa pleine puissance dans ta vie. Ne croyons pas que parce que Dieu est bon, Dieu fera tout ce qu'il veut. Non, il y a des hommes et des femmes qui ont plus de puissance que d'autres. Pourquoi, d'après vous? Parce que certains arrivent à dire, Seigneur, je te donne tout ce que j'ai, ce que je suis, je me garde pur pour toi. Est-ce qu'on est parfait? Non. Est-ce qu'on tombe? Oui. Mais on est différent. Un jour, j'étais dans un avion qui me ramenait de l'Afrique du Sud, je ne sais plus quel pays. Et je rentre, je m'assois dans l'avion et le steward vient me voir et me dit, monsieur, excusez-moi de vous déranger. J'étais heureux parce que j'étais assis et à mes côtés, il y avait un siège vide. J'ai dit, super, j'aurai de la place pour dormir, c'est génial, j'ai deux sièges pour moi, je suis content. Il vient me voir et me dit, monsieur, est-ce que ça ne vous dérangerait pas de laisser votre place pour un couple de jeunes mariés qui sont séparés, donc s'il vous plaît, je dis, ben ok, parce que je suis gentil, quoi, j'ai ok. Et il me dit, vous inquiétez pas, je vais trouver une place extraordinaire. Je dis, ouh, je suis en business class, enfin Dieu m'aime. Et je suis le steward, et je le suis comme ça, et on arrive juste au rideau de la business class. Et il me fait asseoir juste devant le rideau, dans la classe économique, la bétaillère comme on l'appelle. Et il me dit, excellent voyage, vous avez une place de choix. Et quand il me montre la place de choix, il y a une fille assise au hublot, elle avait tellement chaud que son short était une ceinture. Et en gardant mon cœur le plus pur possible, je vous dis avec beaucoup d'amour, ses jambes étaient interminables, d'une beauté interminable. Elle était canon. Pas 10 sur 10, 14 sur 10. Le genre de fille que tu ne peux pas juste regarder en disant merci Seigneur. Non. Si tu es un homme, tu galères. Il n'y a pas un gars qui m'aide là. Bande de faux frères là. Attention, ne confondez pas être tenté et le péché. Être tenté, c'est être tenté. Succomber à la tentation, c'est péché. Mais là, je suis là, je fais oh aïe. Sérieux. Et je prends mon iPod et je mets Joyce Meyer pour que la fille voit bien que je ne suis pas du tout intéressé avec elle. Je regarde un message de Dieu. Sérieux, c'est en vrai. Elle me fait sorry, en anglais, désolé. Je fais oui. Elle fait vous allez où? En Afrique du Sud. Oh, français. Ouais. Elle fait I love Frenchies. Histoire vraie, j'aime les Français. Je fais là, Seigneur, sauve-moi, je vais mourir. Je suis marié et tout, j'aime ma femme, il n'y a pas de problème. Je suis chrétien, j'aime ma femme, je suis pasteur, mais j'ai un canon à mes côtés qui a tellement chaud qu'elle a... C'est plus un short, c'est une ceinture qu'elle a. Et elle est comme ça. Et je fais, oui, d'accord. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis pasteur. Elle fait, oh... I love pastors. Et là, j'ai dit, s'il n'y a pas l'enlèvement de l'église, il faut un parachute. S'il n'y a pas de parachute, il faut autre chose. On est en plein décollage. Là, je flippe. Histoire vraie. Je dis, Seigneur, fais ce que tu veux, mais sauve-moi de ce guet-apens. Vite. Je ne sais pas combien de temps je vais tenir. J'ai mal aux yeux. Ma tête fait mal et tout. Tout d'un coup, je vous promets devant Dieu, tout d'un coup, j'ai un mal de ventre. Mais un truc que j'ai jamais eu. Et j'ai envie de vomir mes tripes. Et là, je fais... Et je fais, pardon, et j'appelle le steward, je fais, excusez-moi, ça va pas bien. Il ne va pas du tout, il me dit non. Et là, on a déjà décollé, donc je cours aux toilettes et je vomis juste à côté de, excuse-moi l'expression, hein, côté du truc de business, et tout le monde, on entend, comme ça, c'est bien épais, bien large. Tout le monde entend le truc, et je reste au moins ça, et je vomis. Je sors, et le steward me voit, il me fait, oh, ça n'a pas l'air bien. Je fais, non, mais là, il faut que je reste proche des toilettes. Il dit, mais prenez mon siège, j'ai le petit siège de steward là pour le décollage. Il dit, prenez mon siège là, restez là pendant quelques minutes. Je suis resté pendant tout le voyage. Je suis allé 10 fois aux toilettes. Il n'y avait que de l'eau. Quand l'avion a atterri, allait atterrir, le gars me dit, écoutez monsieur, excusez-moi, il faut retourner à votre place pour mon atterrissage. Je vous garantis, j'avais plus aucun charme pour la fille, aucun charme. Elle avait entendu vomissement, sur vomissement, sur vomissement. J'avais plus aucune chance. Arrivée, elle m'a fait hi, et puis j'ai fait gloire à Dieu, j'ai dormi, je prends l'atterrissage. On a atterri, j'ai pris mes affaires. Quand je suis sorti de l'avion, j'étais en forme. Promis, j'ai dit, c'est pas possible, je suis en forme. Je suis arrivé chez moi, je dis, chérie, qu'est-ce qui s'est passé? Elle m'a dit, mon amour, viens, je vais te la faire oublier. Ouh, mais, ça oui, ça a été l'un des moments de solitude les plus graves de ma vie. Mais j'avais pas envie de tomber. J'ai appris une chose avec le péché. Il va toujours te coûter plus que ce que tu es prêt à payer. Il va toujours t'emmener plus loin que là où tu pensais aller. Quand tu commences à négocier avec le péché, tu penses le contrôler. Dès l'instant où tu penses contrôler ton péché, c'est que tu es déjà contrôlé par lui. Le péché va toujours te coûter plus que ce que tu es prêt à payer. Il va te coûter plus que ce que tu es capable de payer. Il va t'emmener plus loin que là où tu étais prêt à aller. Non, Seigneur, tu sais, je te promets, c'est juste une minute. Juste une photo. Non. Ce soir, sois différent. Rapidement ce soir, deuxième chose, prends position. Les gars, Shadrach, Meshach, Abednego sont restés debout. Ils ont dit non, on ne va pas se prosterner. Nous refusons. Et j'ai aimé ça parce qu'ils se sont tenus pour la vérité, sur la vérité. Ils ne nous ont pas laissé avoir. Dans Paul dit en Corinthiens 15, 58, il dit, c'est pourquoi mes chers frères et sœurs, soyez fermes. Ne vous laissez pas ébranler, travaillez sans relâche pour le Seigneur, sachant que la peine que vous vous donnez au service du Seigneur n'est jamais inutile. Vous lirez chez vous Éphésiens 6, 10, Paul parle de l'armure, il dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Tenez ferme. Tenez ferme, tout le monde dit, je tiens ferme. Si tu ne prends pas position pour ce qui plaît à Dieu, alors tu prendras position pour ce qui déplaît à Dieu. Si je ne prends pas position pour ce qui plaît à Dieu, alors je prendrai position pour ce qui déplaît à Dieu. Et ce soir, je veux être différent avec vous, je veux être différent. Je veux tenir ferme, je veux prendre position, je ne veux pas me laisser avoir et je veux être déterminé. Troisièmement, 1, être différent. 2, prendre position. Et 3, être déterminé. Tout le monde dit être déterminé. S'il vous plaît, vous lirez chez vous Daniel 3, chapitre 3, verset 1 à 30, s'il vous plaît, c'est puissant. Il faut être déterminé. Satan va tout essayer, il va tout faire pour te faire croire que tu peux t'en sortir. Non, 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 vous savez quoi, Satan n'a qu'un seul but. Il te déteste, il veut te détruire, il veut te tuer, il veut te massacrer, toi, ta famille. Il veut que tes enfants souffrent, il veut que tu perdes tout. Satan n'a qu'une mission, ta destruction. Qu'est-ce qui fera la différence? C'est le feu que tu as pour Jésus-Christ. C'est la passion que tu as pour Jésus-Christ. C'est le zèle que tu as pour Jésus-Christ. C'est prendre position pour Jésus-Christ. J'ai encore tellement de trucs à dire, mais je vais m'arrêter là ce soir. J'aimerais ce soir qu'on considère ensemble ce message simple, cette remise à niveau, ce cœur du Père qui dit, est-ce que je peux compter sur ton cœur radical pour moi. Je pense à mes amis Henri-Paul et Sylvia et je me souviens de l'époque Je leur demande pardon ce soir, mais j'étais pas chrétien, donc ils vont me pardonner. Mais à l'époque, je faisais tout ce que je pouvais pour que leur fille soit dévergondée. Tout. Je faisais des booms, je faisais des fêtes. Et ces filles-là me fatiguaient, elles m'énervaient grave. Parce que dès qu'elles étaient sur le point de faire une bêtise, elles disaient non, je veux pas déplaire à Dieu, mais j'aime trop mes parents. Je leur disais, mais ça change rien. Ils vont pas savoir. On dirait rien. C'est cool. Et pendant des mois, j'ai trouvé Henri, Paul et Sylvia tellement sévères, tellement sévères. J'ai dit, mais ils sont trop sévères, ils sont religieux, ils sont sectaires. Non, vous avez raison, mes amis. Aujourd'hui, leurs quatre filles servent Dieu, aiment Jésus, sont mariées. Elles sont à fond pour Dieu, elles sont toutes chrétiennes. Elles ont des bons maris. Toutes. C'est de eux que je vais apprendre. Alors à vous les jeunes ce soir. Ta maman me disait, oui tu sais, mon père est trop dur, c'est pour ça que je me rebelle. Je lui dis, non, tu te rebelles parce que ton cœur est dur, pas ton père. Quel que soit le degré de sévérité de ceux qui nous dirigent, nos parents, nos voisins, notre nation, la rébellion est une affaire de cœur. Parce qu'il y a des gens qui ont des parents sévères et qui ne se rebellent pas. Il y a des gens qui ont des parents cool et qui se rebellent quand même. Arrêtons de croire que la rébellion, c'est de la faute des parents, de la nation. Tu rigoles ou quoi? Tu te rebelles parce que tu veux te rebeller. Est-ce que vous croyez que Steve ou moi, Pasteur Steve, qui connaît Pasteur Steve? C'est une perle, c'est une crème. On est avec Gilles Magon, Johnny Rivière, je ne sais plus qui, Steve et moi, et Fred Bénard. On est en Ukraine. N'allez jamais en Ukraine seul. Il y a tellement de blondes magnifiques au mètre carré, n'y allez pas. Je promets. On est dans le train, et Steve regarde ça, me fait, Bruno, j'ai en face de lui, il me dit, Bruno, prends ma place. Je fais quoi? Prends ma place, il faut que je change de place. Je sais pourquoi. Prends, s'il te plaît. Et il me fait ça, et il prend ma place, et moi, je me retrouve à sa place. Et là, je vois dans ma ligne de mire une femme magnifique qui nous regarde. Je dis, mais tu es fou, quoi, fais l'inverse. Prends Johnny. Johnny dit, non, regarde, pas moi. Et tu vois cinq créoles en train de regarder la carte du métro en russe. Le dos tourné, tous comme ça. Les gars, on est débiles, on comprend rien, là. On dit, c'est pas grave, vaut mieux regarder la carte du métro en russe qu'une femme canon derrière. Le lendemain, Johnny Rivière marche. Il marche comme ça dans la ville de Kiev. Il fait, pas possible, c'est pas possible. On a trop de canons, c'est pas possible. Il marche comme ça. Il refuse de regarder autour de lui. C'était l'hiver, elle était toute habillée en laine de fourrure de sapin, d'accord? Donc, fourrure de sapin, je sais pas si ça existe, mais fourrure de léopard, bref. Ça pour vous dire, mes amis. Bien sûr qu'on est tenté, tu rigoles ou quoi? Celui qui n'est pas tenté, il y a deux options. Ou bien il est menteur, ou bien il est mort. Un des deux. La femme qui n'a jamais rêvé de changer de mari, ne serait-ce qu'une journée, c'est une menteuse. Celles qui osent me dire qu'elles ne connaissent pas Cristiano Ronaldo sont des menteuses. George Clooney. Robert Redford. Alain Delon. On est d'accord. J'essaie de vous montrer ce soir, frères et sœurs. Le message, d'accord. Le message est assez... Je comprends ça. Mais on n'est pas des enfants. Si nous voulons vivre une vie qui plaise à Dieu, il faut entendre ce qui plaît à Dieu. Mais il faut aussi entendre ce qui déplaît à Dieu. Et ce soir, on n'est pas là pour se flageller, se frapper en disant « Je suis un sale pécheur ». Non, non, non. Quelle différence il y a rapidement entre la condamnation et la conviction? Le diable te condamne, toi la personne. Jésus, comment on dit ça? Je te donne la conviction. Tu te sens convaincu, mais pas condamné. Tu vois la différence? Il te dit, ce que tu fais n'est pas bien. Le diable dit, tu n'es pas bien. Jésus dit, ce que tu fais est mauvais. Le diable dit, tu es mauvais. Voilà la différence entre être coupable, condamné, et être convaincu de péché. Ce soir, je ne vais pas faire un appel. On est en train de rentrer dans une phase où je vais vous montrer pourquoi. Est-ce que certains d'entre vous, vous avez du mal à être en feu, passionné, zélé, heureux et à avoir une vie différente? Ça fait 15 ans, 20 ans, 10 ans, 5 ans de vie chrétienne, les mêmes problèmes, les mêmes soucis. Quelque chose doit changer là. Ça peut être n'importe quel problème. Mais nous devons être différents. Nous devons prendre position contre Neb. Et nous devons accepter le combat, le conflit est réel. Nous devons dire, je veux moi-même placer les limites de mon camp. Quand je dis à mes filles, tu ne regardes pas tel film. Si c'est interdit moins de 10 ans ou moins de 12 ans, elles ne regardent pas le film. Et si je ne suis pas sûr, Elodie et moi, on regarde le film avant. Et si on estime que le film est regardable, elles pourront le regarder. Sinon, elles oublient le film. Et tout, souvent je leur dis, qu'est-ce que tu préfères, avoir un cœur qui plaît à Dieu et pas de film, regarder un film et avoir un cœur qui déplaît à Dieu? Elles font très vite le choix. Elles n'ont que 10 ans et 7 ans. Et il ne faut pas que je perde mon désir d'être un père qui inspire cette saine crainte de Dieu. Ainsi, je n'aurai jamais besoin de manipuler, de faire pression, de faire peur. Je veux simplement les inspirer à aimer Jésus. Hier, on est à la télévision, on est en famille, et tout d'un coup, dans une pub, il y a des pubs, vous savez comment ça se passe, il y a une femme qui passe, elle est presque nue, et Lisa, son réflexe, elle se lève, elle se met comme ça devant moi. Et moi, je suis avec Théo, je dis, qu'est-ce qui se passe chérie? Je t'ai sauvé la vie. Je dis, merci ma chérie, c'est sympa, très gentil. Pas de problème, elle se rassoit. Réflexe, tout de suite, elle comprend que ça, c'est pas bien. Mes amis, est-ce que c'est vieux jeu? Je m'en fiche. Est-ce que c'est religieux? Je m'en fiche. Est-ce que c'est traditionnel? Je m'en fiche. Est-ce que c'est sévère? Je m'en fiche de ce que le gars en face de chez moi va faire. Si lui, ses filles sortent à l'âge de 12 ans en boîte de nuit, c'est son problème. Il fait ce qu'il veut. Moi, mes filles sortiront à l'âge où elles sortiront. C'est-à-dire entre 45 et 50 ans. Alors c'est vrai, je fais un appel ce soir solennel. Ce soir, je fais un appel solennel. Ma grand-mère, ta maman, disait souvent aux pauvres mamans effondrées qui venaient se plaindre avec elle que les fils de ma grand-mère, donc mes tontons, donc j'ai vu les photos de l'époque, étaient tous des top modèles, baraqués, tu sais, et qui en plus le savaient, draguaient le peu de copines du tampon, et plus. Les femmes venaient disant, gardez vos fils chez vous parce qu'ils tournent autour de ma fille. Et ma grand-mère, quand on vient faire, disait, mais moi, vous gardez vos poules, moi je lâche mes coques. Bon, mamie, tu me vois là-haut, forza, hein? Et moi, je vais protéger mes poules et je vais former mon coq. Mais je me demande ce soir si je peux avoir, avant qu'on quitte ce lieu, un engagement solennel de notre part qui dit, et pourquoi est-ce que nous ne serions pas différents des autres? Pourquoi est-ce qu'il faut qu'on retrouve dans l'Église les mêmes péchés qu'en dehors de l'Église? Pourquoi est-ce qu'il faut qu'on ait les mêmes mots, M-A-U-X, les mêmes travers, les mêmes problèmes, les mêmes soucis, les mêmes... Pourquoi? Alors qu'on devrait être différent, prendre position et être déterminé. Si vous faites ça, vous resterez en feu. Parce que le feu de Dieu restera toujours sur celui ou celle qui aime ce que Dieu aime et qui déteste ce que Dieu déteste. Mais le mal triomphe parce que les gens de bien ne font rien. Et nous sommes des gens de bien. Alors que tout le monde ce soir, que ce qu'on ferme les yeux, s'il vous plaît.